le journal. Claire Fauchel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. C'est l'une des conséquences de la réforme de la justice, l'entrée en fonction aujourd'hui du tout premier parquet national antiterroriste, avec des magistrats, 27 en tout, dédiés aux affaires de terrorisme et de crimes contre l'humanité, du début des investigations jusqu'au procès. À sa tête, un juge expérimenté, Jean-François Ricard, 62 ans. Mais cette nouvelle juridiction fait l'objet de vives critiques de la part des acteurs de la lutte antiterroriste et des institutions. Mathieu Laurent.
La section antiterroriste a su mobiliser en un temps record des dizaines de magistrats lors des attentats de 2015 et de 2016. Le PNAT saura-t-il faire montre de tant de souplesse et de réactivité? Les syndicats, toutes sensibilités confondues, en doutent et craignent un isolement des magistrats de ce parquet ainsi qu'un engorgement des dossiers. Le syndicat de la magistrature a cette formule, c'est le même en moins bien. Autre avis défavorable, celui du Sénat qui en octobre dernier a rejeté le texte qui porte tel projet. Cet avatar sans réelle plus-value, écrivent sans détour les sages du Conseil d'État, risque même d'abîmer la perception des liens entre la petite délinquance et le terrorisme face à une menace plus diffuse, moins lisible, mais plus présente. Ces signaux dits faibles que les services de renseignement ne partageront pas plus qu'hier avec les magistrats référents dans les parquets de province. Alors pourquoi supprimer une section antiterroriste qui n'a jamais démérité ? Effet d'annonce, il fallait un nouveau visage de l'antiterrorisme, ironise de hauts magistrats, excite François Molins, nommé à la Cour de cassation. Voici venir Jean-François Ricard, qui hérita à ses débuts de l'enquête sur l'attentat du RER Saint-Michel en 1995. À son agenda, au printemps prochain, des procès hors normes, ceux des attaques à Charlie Hebdo ou encore au Bataclan.
Mathieu Laurent pour France Culture. La mère de Vincent Lambert a prévu de s'exprimer en fin de matinée devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, après la décision de la Cour de cassation vendredi qui rend possible un nouvel arrêt des traitements de son fils dans un état végétatif depuis plus de 10 ans après un accident de voiture. Au moins 7 morts et 180 blessés au Soudan dans des manifestations hier. Manifestations pour réclamer le transfert du pouvoir détenu par les militaires aux civils. Mais près d'un mois après la répression meurtrière d'un sit-in qui a fait 120 morts à Khartoum au début du mois dernier, ils étaient donc à nouveau très très nombreux dans plusieurs villes. Reportage d'Alexandra Branjou.
C'est une véritable marée humaine qui s'est déversée dans le centre de Khartoum au cri de Madania, Madania, le pouvoir aux civils. Des dizaines de milliers de personnes agitant des drapeaux soudanais faisant le V de la victoire, venus des quartiers périphériques. Jeunes, femmes, enfants qui ont rejoint le cortège peu à peu, défiant les services de sécurité pour crier leur ras-le-bol.
Ça suffit, cela fait 30 ans que nous attendons. Il faut arrêter, nous ne voulons plus de militaires. Nous voulons un gouvernement civil.
Nous ne voulons pas que des gens armés nous dirigent. Ce sont eux qui nous ont tués il y a quelques semaines. Cela fait des années qu'ils nous massacrent au Darfour. Ils ne nous représentent pas.
Nous n'allons pas négocier avec ces 7 personnes du Conseil militaire. Nous voulons bien négocier avec les militaires, mais pas ceux dont les mains sont pleines de sang. Nous n'accepterons plus jamais que des civils meurent.
Dans la rue, les voitures klaxonnent, s'arrêtent, c'est l'euphorie. Tout le monde converge vers le QG de l'armée, là où les manifestants ont campé pendant près de 2 mois. En face, des centaines de forces de sécurité, militaires, police anti-émeute font barrage, déterminés à ne laisser personne passer. C'est un véritable succès, crie ce manifestant. Nous avons réussi à mobiliser tout ce monde, alors qu'Internet est coupé depuis des semaines.
Alexandra Branjon, correspondante de RFI à Khartoum pour France Culture. Une nuit blanche à Bruxelles et toujours pas d'accord entre dirigeants européens, négociations, tractations. Il s'agit, un mois après les élections, de savoir qui occupera les postes clés de l'Union européenne, à commencer par les présidents de la Commission et du Parlement. Mais donc pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Si l'on reste sur un échec, il y aura un nouveau sommet dans le courant du mois. En tout cas, une chose est sûre, c'est la Finlande qui prend ce lundi la présidence de l'Union européenne. La Finlande qui est un modèle en termes d'environnement, elle devra convaincre les 27 autres qui se déchirent sur la réduction des émissions nettes pour 2050 afin de respecter l'accord de Paris. Helsinki entend prouver que les ambitions vertes sont compatibles avec la croissance économique et cette petite ville de 10 000 habitants dans le nord du pays pourrait servir d'exemple aux Finlandais pour soutenir leurs propos. Ii, sur les bords de la Baltique, veut être la première ville zéro déchet au monde. Elle a déjà réduit de moitié ses émissions de gaz à effet de serre. Reportage de Marie-Pierre Véroux.
Aux confins de la Laponie, là où le thermomètre descend à moins 30 l'hiver, Ii se veut exemplaire. La ville s'est totalement débarrassée des énergies fossiles. On se chauffe et on s'éclaire déjà grâce au solaire, à l'hydraulique et à l'éolien. Ii produit même 10 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme, un excédent qu'elle revend. Être verte, cela rapporte, explique le maire. 2,5 millions d'euros chaque année, les impôts ont pu être réduits. 130 emplois créés dans les renouvelables, les employés municipaux roulent à l'électrique, les écoles équipées de panneaux solaires sont autosuffisantes et les citoyens éduqués dès leur plus jeune âge. Les Naves Autovesi travaillent avec la municipalité.
Tous les enfants de Ii participent aux actions climatiques. Dans les écoles et les centres de loisirs, ils mesurent la température, contrôlent eux-mêmes la consommation d'eau et d'électricité. Et s'ils font des économies, ils reçoivent la moitié de l'argent gagné et peuvent choisir comment le dépenser.
Prochains objectif 2020, 80% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2050, première ville zéro déchet au monde. Préserver la planète, ce n'est pas une question de ressources, insiste-t-on à Ii, juste de volonté.
Marie-Pierre Véraud. Le temps de ce lundi, les fortes chaleurs perdurent sur l'est et le sud-est, mais la canicule s'estompe et les températures baissent partout ailleurs. Il fait ce matin entre 21 et 23 degrés en Alsace, vallée du Rhône, PACA et rivages méditerranéens. Ailleurs, les températures ne dépassent pas les 21 degrés. Les éditions de ce matin ont été préparées avec François-Charles Domergue et M. Le Chy.